apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barraud et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan « Be Our Change », l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, master of science, MBA, DBA et toute une offre d'executive education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi, vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler sportswear, sport de manière générale, entrepreneuriat. Comment on entreprend quand on a 50 ans, comment on se lance face à Nike, Reebok et autres mastodontes de ce marché. Et pour cela, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Patrick Daniels. Bonjour Patrick.
Bonjour Pierre et merci pour l'invitation.
Bah, c'est un plaisir, d'autant que c'est un sujet que moi, très honnêtement, je connais très très peu. Alors j'ai fait un peu de recherche préparant cet épisode, mais vraiment c'est tout un monde qui s'ouvre à moi en tout cas. Et c'est l'objectif de la colle aussi, c'est d'apprendre. Donc on est en plein dedans. Est-ce que Patrick, en quelques mots, tu veux te présenter?
Oui, bien sûr. Alors je suis né aux États-Unis. Je suis né en Californie, à la fin des années 60, de parents légèrement hippies, avec une histoire un peu atypique. Alors c'était des hippies éduqués, hein, puisque mon père étudiait à Stanford et on habitait ce qui est maintenant la Silicon Valley. Donc, okay. Mes premières années ont été passées aux États-Unis et après, il y a eu une grande arnaque dans la famille, puisque il y avait
ton père est américain et ta mère française.
Ouais, père est américain, ma mère est française, mais habitait longtemps aux États-Unis. Et quand j'avais presque 8 ans, mes parents ont dit on va aller passer l'été en France. Donc ma mère était française, mon père avait passé un an pendant ses études en France. Et ma compréhension de jeune garçon, c'était qu'on était parti pendant 2 ou 3 mois. Et donc on est venu l'été en France et la réalité, c'est que la première fois qu'on en est reparti, c'était 3 ans plus tard. Donc, de toute évidence, on en parle encore aujourd'hui de quelles sont les compréhensions de l'époque. Donc, de petit Américain, je suis devenu progressivement petit Français, élevé en France, dans une petite ville thermale en Auvergne, et ensuite la région parisienne où mon père enseignait dans le groupe ESSEC. Et ensuite, j'ai suivi des études de commerce, donc école préparatoire, école de commerce, que j'ai prolongé ensuite avec 2 années d'MBA aux États-Unis.
Donc, t'es parti en prépa quand même, ça veut dire que t'étais plutôt un bon élève alors.
J'étais un élève qui fait exactement le contraire de ce que je dis à mes enfants aujourd'hui. J'étais un élève qui comprenait qu'on pouvait prendre des raccourcis. Et ce qui est intéressant là-dedans, Pierre, c'est qu'une fois qu'on a soi-même pris ces raccourcis, on connaît bien les ficelles, et on connaît, on sait quel message il faut délivrer ensuite à ses propres enfants qui eux n'en prennent pas pour le coup. Donc j'étais un élève qui était correct, en tout cas suffisamment pour faire une prépa HEC, faire une école de commerce, et ensuite être sélectionné parmi les 3-4 chaque année qui étaient envoyés aux États-Unis pour faire un troisième cycle. Donc voilà.
Ouais, sachant que c'est là on est en 93.
Ouais.
Quand tu finis ton école de commerce, et on peut le dire, ok, on a fait la même, on est diplômés de l'ISC tous les deux. Voilà, ouais. Ça c'est dit et c'est fait. Mais en 93, c'est pas tout le monde qui part aux États-Unis. C'est pas un truc naturel que d'aller faire un troisième cycle. C'était quoi le... Alors t'avais un attachement familial aux États-Unis et culturel éventuellement, mais il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là? C'était quoi les motivations pour partir?
Je crois qu'il y en avait deux grandes. Qui était une espèce de validation de ma culture américaine, parce que j'ai quitté les États-Unis quand j'avais 8 ans. Alors forcément au départ on parlait anglais à la maison, mais j'étais vraiment devenu un petit français. Et à quelques mois ou à quelques années de me lancer dans une carrière professionnelle, il fallait avoir une vraie validation de cette culture, se réenraciner dans une éducation, dans un cursus américain, pour pouvoir ensuite avoir un discours super clair sur oui, je suis biculturel, je suis vraiment bilingue, j'ai un diplôme français, j'ai un diplôme américain, etc. Donc, je crois qu'il y avait un petit peu ce souci de validation de mes toutes premières années, et il y avait aussi un rêve. La vie sur le campus, on a toutes ces images des beaux campus américains du nord-est des États-Unis, ou même de partout d'ailleurs aux États-Unis. Stanford était magnifique aussi. Et il y avait aussi un peu ce fantasme d'une vie un peu légère, tout en étant relativement rigoureuse et axée sur les études, mais avec énormément de sport, beaucoup de sorties, un environnement qui était très international. Donc il y avait aussi ce doux rêve de s'échapper de Paris, où j'étais déjà depuis très longtemps. Et ça s'est avéré être une expérience extraordinaire. C'était 2 ans sur un campus américain qui en plus était ultra international. C'était 2 des meilleures années de ma vie. Hein.
Non mais ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Et alors, on en a parlé juste avant. Mais donc, je t'ai dit, je peux pas louper ça. Pendant tes études, tu as été tu as fait un... Alors, je ne sais pas si c'est des stages ou des jobs d'été, plutôt jobs d'été, comme steward sur les longs courriers Air France.
Oui, oui, c'était... c'est marrant, je ne sais pas. Tu viens de dire, je sais pas si on peut le qualifier de stage. Je me souviens encore sur mon rapport de stage, c'est exactement ce que la personne qui a noté a indiqué en disant vous auriez mieux fait de faire un vrai stage plutôt que de parcourir le monde et de montrer où sont les issues de secours. Donc... Oui, j'ai passé trois mois assez extraordinaires sur des longs courriers en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud.
C'est génial. En termes d'ouverture au monde, c'est génial.
Moi j'ai adoré. Je pense pas que j'étais le meilleur des stewards, parce que je pouvais pas m'empêcher de prendre ça peut-être un petit peu à la légère, outre les briefings de sécurité qui étaient vraiment importants. Mais je voyais ça comme une joyeuse colonie de vacances. Ouais. Et non seulement moi, je le voyais comme ça, mais le personnel navigant permanent, donc non étudiant, le voyait aussi comme ça, puisque j'ai passé 2 mois et demi à me faire bizuter avec à peu près tout ce qui peut arriver à un étudiant qui vole, qui dort la nuit, qui se fait coudre les revers de ses manches, qui a un vrai gilet de sauvetage.
Ah oui, c'était violent quand même.
Il y a du carboglass sur son siège au moment du décollage, qui fait un Paris-New York avec un autocollant dans le dos, ne pas débarquer. Donc oui, c'était une expérience sympa, peut-être un peu trop informelle. D'ailleurs, ils m'ont jamais repris. Mais c'était deux mois et demi extraordinaire.
Plus jamais, c'est bon. Ouais. Bon, voilà, on a fait cet aparté, mais je trouvais c'est intéressant, parce que c'est toutes ces années, finalement, ça te donne un profil très international, très business et très international, et pourtant tu vas choisir d'aller dans une boîte finalement très française, parce que tu vas aller chez Rossignol.
Ouais, c'est une bonne question. Après 2 ans aux États-Unis, se pose la question, est-ce que je reste ou est-ce que je repars? Et j'étais à l'époque, et encore maintenant, non seulement dingue de sport, Pierre, mais dingue de tout ce qui était articles et vêtements de sport. D'ailleurs, c'est marrant pour la petite histoire. À l'époque, il y avait encore des salons absolument gigantesques de sociétés qui étaient sur le marché des articles de sport aux États-Unis. Et quand je terminais mon MBA, c'était des salons professionnels avec un de mes collègues étudiants. On avait fait faire des fausses cartes de visite pour rentrer dans ce salon qui était Atlanta à l'époque et qui s'appelait le Super Show, où absolument toutes les marques qui nous faisaient rêver exposer leurs chaussures, leurs textiles, leurs accessoires, etc. Donc très rapidement, j'ai voulu rentrer sur le marché du sport. Ensuite, après 24 mois d'immersion dans la culture américaine, la France me manquait quand même. Plein de grandes choses, plein de petites choses qui me manquaient. Ouais. Et il y avait quand même le souhait de rentrer en France, mais en prenant un poste qui me permette d'énormément voyager. Et ça a été le cas chez Rossignol notamment.
Parce que ton premier job, c'était quoi exactement?
J'étais chef de zone export chez Rossignol, donc c'était au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois, j'ai évolué, mais à l'époque, c'était marrant. Hein, j'avais 25, 26 ans, j'avais une offre de Nike, j'avais une offre de Rossignol, et j'étais un dingue de ski. Donc, j'étais coup de ski petit déjà, j'avais des plans d'épices qui étaient accrochés au mur de ma chambre, et j'avais ce rêve de commercialiser les skis et les articles qui a trait à l'univers du ski. Et donc, je suis allé dans une de leurs divisions, leur division fixation, et mon métier à l'époque, c'était de développer l'activité de cette division à l'international. Donc, le premier poste, je crois, avait un périmètre qui était nord-américain, États-Unis, Canada, et les principaux marchés européens. Et assez rapidement, au bout de 6 mois, ça a été étendu à l'ensemble des marchés où on skie dans le monde. Donc, ça inclut le Japon, la Corée, etc. Okay. Donc il y avait ce réancrage en France après les 2 ans aux États-Unis, mais j'avais 26 ans, je crois, la moitié de mon temps en avion à parcourir le monde avec mes fixations de ski. Et entre parenthèses, à énormément skier en même temps.
Ouais, autant lier le plaisir au travail, t'as raison. Et donc, derrière, t'as tout un chemin de carrière où tu vas vers le consumer goods et plus précisément vers le sportswear, ce qui va nous amener à Hertz aussi aujourd'hui. Tu passes chez Reebok, c'est comme ça qu'on dit, ou Reebok,
Reebok pour les Français.
Ouais. Chez Reebok. Tu fais Reebok, Levi's, je vais te le faire en anglais, Levi's, Esprit et Aigle. Donc, on voit qu'il y a quand même un chemin assez constant. Si toi, aujourd'hui, tu prends un peu de recul justement sur ces différentes étapes, comment tu les conçois, c'est quoi ton retour d'expérience comme ça sur ces choix-là et ce chemin-là?
Je crois déjà il faut trouver une entreprise avec laquelle il y a un fit culturel et aussi en termes d'ambition. Rossignol, c'était très sympa. En même temps, assez paradoxalement, c'est une entreprise qui était très conservatrice. Sur les salons, on était en costume cravate, alors que sur le stand d'à côté, chez Salomon, ils étaient tous en jean et en basket, très décontractés. Donc, ce côté ultra conservateur du sport ou d'une culture d'entreprise était peut-être un petit peu moins moi. C'est une entreprise qui n'avait pas non plus la taille critique pour avoir des perspectives d'évolution. Et c'était très français, donc c'est marrant, hein, tu vois, je vais te replonger quelques années en arrière, mais à l'époque, il y avait encore des annonces pour des offres d'emploi dans l'Express, donc il n'y a plus depuis plus longtemps. Et quand j'ai vu cette annonce chez Reebok, il y avait plein de cases qui étaient cochées. Un, déjà, j'étais un fou de sportswear, et mon premier métier là-bas était autour du produit textile lui-même. C'est une entreprise américaine, et c'est une entreprise qui faisait déjà plusieurs milliards de dollars quand je les ai rejoints. Ils n'avaient pas encore été décrochés complètement par Nike. Donc, je cochais un petit peu toutes les cases et en même temps, je revenais en région parisienne. Et ça me permettait, au sein de Reebok, de vraiment mettre à profit cet aspect biculturel de mon parcours, puisque Reebok était basé aux États-Unis. Il y avait des Américains un petit peu partout dans l'organisation. Donc là, je capitalisais vraiment sur cette compréhension des différences culturelles. Donc Reebok avait aussi, c'était avant le rachat d'Adidas, avait aussi des opportunités qui étaient vraiment intéressantes. Hein. À l'époque, j'avais 28 ans, puisqu'il y avait des sièges dans tous les pays européens, il y avait un siège qui était européen. Et surtout, je pense, Pierre, le point de départ, et c'était encore quelque chose qui fait écho aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, c'est que mon premier métier chez Reebok était un métier de rêve. C'était assez fou, puisque on me donnait les clés des collections textiles pour l'Europe. Donc, la chaussure Reebok était déjà globale, hein, c'était à partir des bureaux du siège de Boston. Par contre, le textile est encore régionalisé. Donc, il y avait le textile asiatique, il y avait le textile américain, et il y avait le textile européen. Et mon premier métier était de construire avec mes équipes les collections textiles pour l'ensemble des marchés européens. Donc, quand on est...
On t'a filé les clés.
Rapidement, je suis devenu patron des chefs de produits textiles pour l'Europe. Donc, mes équipes et moi-même, on concevait les collections pour l'Europe. Et c'était un métier qui était absolument passionnant. Alors, il faut aimer les chiffons, hein, Pierre. Il faut aimer être dans les prototypes. Il faut aimer sélectionner les matières, sélectionner les couleurs, travailler sur la construction même des produits. Mais c'était littéralement un métier de rêve dans une entreprise qui l'était tout autant. Hein. Je me souviens encore du jour où il m'avait donné la réponse comme quoi j'étais pris au centre de Textile Europe pour Reebok. C'était un des plus beaux jours de ma vie. J'étais sur un nuage. Ouais. Et ensuite, avec les années qui passent, on vous propose d'autres opportunités. Donc, en plus, j'ai pris un virage dans la vente chez Reebok. Et ensuite, tout a un cycle. Et après, je crois, 7 ans chez Reebok, la question se pose, what's next? Donc, aller aux États-Unis. J'étais attaché à la France, familialement, personnellement, et j'ai commencé à lever un petit peu le nez. Et Reebok était à quelques kilomètres du siège français de Lévi-Strauss à l'époque. Et je crois, bon, on était tous un peu ambitieux en début de trentaine. Et ce que le groupe Lévi-Strauss me proposait à l'époque correspondait exactement à ce que je cherchais, puisqu'il me proposait une première petite direction commerciale. C'était la direction commerciale de Docker. C'était une vingtaine de personnes, c'était une vingtaine de millions, c'était des réseaux assez diversifiés entre les grands magasins, les multimarques, la VPC qui a connu des tourments depuis. Et donc le choix s'est fait comme ça. C'était une trajectoire à peu près cohérente de passer de directeur des ventes pour les centrales d'achat européennes chez Reebok à un poste de direction commerciale dans un groupe qui est absolument extraordinaire. Pour les personnes qui sont passées chez Lévi, ils sauront de quoi je parle, avec une culture incroyablement forte, assez compliquée d'ailleurs pour les nouveaux entrants, hein. On avait un jargon qui était le nôtre, on avait des modus operandi qui étaient très normés, mais une fois qu'on les avait bien maîtrisés, bon, on se sentait un petit peu entre nous. Il y avait une culture de la performance qui était ultra poussée, d'autant plus que c'était une entreprise qui était non cotée, hein, Lévi-Strauss, à l'époque, hein, ils n'étaient pas du tout en bourse, c'était familial. Et donc j'ai passé 6 années chez Lévi-Strauss. Directeur commercial Docker, ensuite directeur commercial Levi's, avec bon, un chiffre d'affaires qui dépassait largement les 100 millions, des équipes qui étaient assez étoffées. Donc, c'était 6 années de développement personnel et managérial absolument incroyable. On décortiquait le cerveau, on faisait toujours des batteries de test sur qui on était, sur comment on se comportait, sur comment comprendre la dynamique d'équipe, etc. Donc, énormément d'acquis qui ont permis ensuite un peu de prendre mon envol et d'accéder à des postes de direction générale, et c'est ce que j'ai fait assez logiquement en allant chez Esprit par la suite.
Chez Lévi's, tu encadrais beaucoup de monde ?
Un peu plus d'une 60aine de personnes.
Ouais.
Donc c'était pas encore gros, hein, par rapport au, je crois que chez Esprit j'étais à plus de 700 personnes, hein, parce qu'il y avait des réseaux de magasins qui étaient assez tendus, mais en tout cas c'était une première expérience assez profonde de management dans un environnement qui était très sain mais en même temps très compétitif, avec un niveau d'exigence qui était très poussé, et en même temps un accompagnement où on nous donnait les clés, le développement, le coaching qui nous permettait d'atteindre les objectifs qui étaient assez stretch.
Quand c'est des organisations comme ça très tournées vers la performance, et c'est ce que tu as fait toute ta vie, hein, comment comment tu arrives à concilier entre guillemets de la bienveillance et le fait d'avoir à pousser ou à tirer la machine? C'est pas facile, ça.
C'est une excellente question. Chez Lévi-Strauss, on pouvait le faire parce qu'il y avait un socle culturel qui était tel que les clés qui étaient à notre disposition pour faire avancer les équipes au bon rythme, avec les bonnes méthodes, etc. Cet environnement culturel permettait en général à la plupart des managers d'éviter les dérapages. Le risque dans le management en général, et c'est un sujet assez universel, c'est au bout d'un moment, avec la fatigue, avec la pression, que le tempérament prenne le dessus, et on est tous humains, donc le tempérament parfois ça nous mène dans les bonnes directions, parfois dans les directions qui sont un peu plus compliquées. Donc Lévis avait un cadre qui faisait qu'il y avait assez peu de dérapages, et ensuite c'est un travail sur soi, de très bien se connaître, de connaître les moteurs de son équipe, de savoir comment construire une équipe qui soit soudée, qui mette l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel, etc. Donc il y avait ce cadre qui était très challenging, mais en même temps qui était assez rassurant. Ce que j'ai pas trouvé, par exemple, par la suite chez Esprit.
Et donc là aussi, tu te fais débaucher par Esprit ou c'est un acte volontaire?
Non, je me suis fait débaucher. C'est intéressant parce que Lévis, c'est une excellente école de leadership. C'est une excellente école opérationnelle aussi. On savait planifier le business, on savait piloter ensuite les équipes pour atteindre les objectifs. Et les Lévis, en général, étaient très chassés. Et chez Esprit, comme on a pu le constater dans d'autres entreprises, à un moment, chez Esprit, la mode était de débaucher des Lévis. Donc, il y avait plusieurs directions de pays qui étaient pourvues par des anciens Lévis, au même titre qu'à une époque, Beneteau en Italie débouchait des Lévis. Moi, je suis arrivé à une époque où c'était Esprit qui débouchait des collaborateurs de chez Lévis. Donc, ouais, j'étais chassé, tout simplement, et ça a été un choix incroyablement difficile. Moi, souvent demandé si c'était la bonne chose à faire, et en tout cas, j'y suis allé.
Et alors, ces années chez Esprit?
C'était, j'ai passé 6 ans chez Esprit. Ça a été une...
Parce que là, t'étais le boss.
Ouais, j'étais président.
General manager. Hein.
Ouais. J'étais mandataire social. J'étais un patron pour la France et assez rapidement après patron pour l'Europe du Sud. Esprit a été une école d'apprentissage très différente de ce que j'avais connu chez Lévis, puisqu'il y avait absolument tout à refonder, notamment en France. Quand je suis arrivé, c'est une filiale qui était malade. Elle était malade financièrement, mais elle était malade en termes de réputation. Elle était souffrante aussi en termes culturels. Et j'étais encore assez jeune à l'époque. Hein. J'avais une quarantaine d'années et autant j'avais été bien formé, évidemment, aux aspects commerciaux, aux aspects RH, aux aspects financiers chez Lévi-Strauss, autant quand même j'ai été jeté là dans le grand bain au sein de structures qui étaient à remodeler de A à Z. Mmh. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors les deux, trois premières années ont été assez compliquées. Donc dans ces cas-là, les premières choses qu'on fait, c'est identifier qui sont ses alliés pour pouvoir s'appuyer dessus. Donc, très rapidement, il y avait un DRH qui était rentré en même temps que moi, qui était ultra pertinent sur son poste, super intègre et très collaboratif. On avait une jeune directrice financière, donc j'avais un peu ce que j'appelle les fonctions régaliennes qui étaient en place. Et on s'est relevé les manches tous les trois et on a commencé à auditer absolument tous les aspects de la filiale, donc les aspects de gestion de la performance, les aspects financiers, les aspects comptables, les aspects d'égo, etc. Donc ça a été...
Par rapport au groupe, il t'avait laissé la main?
Le groupe m'avait laissé... C'est quand je suis rentré chez Esprit, c'était en 2011, l'action avait déjà été divisée par 10. Donc Esprit, c'est une entreprise qui est cotée à Hong Kong. Et quand vous êtes coté et que vous avez une action qui était divisée par 10, tu peux imaginer à quel point il y a des feux absolument partout. Et ce qu'ils veulent, c'est donner des clés à des personnes qui sont capables de faire le job sans être assistées au quotidien. Donc oui, littéralement, on se retrouve, bah, comme dans tous les postes de direction, on se retrouve toujours relativement seul. Et donc, on a commencé, étape après étape, à définir une feuille de route et à refonder l'ensemble de l'organisation. Donc, on a certains collaborateurs qui ont évolué plutôt vers l'extérieur. On a commencé à faire venir du talent. On a commencé à définir les différents métiers indispensables pour le bon fonctionnement d'une filiale. Donc, progressivement, on a mis en place des méthodes, des standards de performance. Et en parallèle de tout ça, on a dû prendre des décisions qui étaient très difficiles. Donc, j'ai mené intégralement 3 plans sociaux chez Esprit, qui incluaient des centaines de personnes. Oui. Donc, c'était une expérience qui a été incroyablement enrichissante sur la partie, évidemment, remodeling d'une filiale et transformation, mais aussi sur la partie plus humaine et plus sociale. Puisqu'il a fallu négocier avec les syndicats, prendre des décisions qui étaient difficiles, négocier avec l'inspection du travail, parce que même avec eux, c'est quand même une négociation. Donc, c'était une 6 années, surtout les 4 premières, de très profonde transformation. Et ensuite, les 2 dernières, une fois que tout était en place, c'était une période qui était beaucoup plus sereine.
Ouais, mais finalement, tu t'es embêté après, puisque t'as bougé.
Et ensuite, alors les 2 dernières années, je suis revenu clairement dans ma zone de confort. Ce qui, Pierre, après 4 années de transformation, est un vrai plaisir. et c'était aussi un plaisir pour les équipes d'enfin avoir de la poussière qui retombe et profiter un peu des avantages d'une organisation qui était quand même assez importante. Et au bout de 6 ans. Mon poste de patron Europe du Sud a été supprimé, tout simplement.
D'accord.
Donc, avec beaucoup d'enseignements clés au passage. Donc, ouais. Un jour, on m'a annoncé très cordialement que mon poste était supprimé. Donc, c'était, je trouve, une expérience remarquable, et on peut en parler si tu veux, parce que ouais. Après avoir fait plans sociaux, après avoir eu beaucoup de discussions aussi individuelles sur la performance, avec derrière des décisions assez draconiennes à prendre pour le bien de l'organisation. À mon tour, moi, j'ai été remercié.
Dur. Tu t'y attendais ou
Alors, j'étais le dernier des Mohicans. Donc tous les patrons de région étaient partis l'année d'avant. Donc, j'ai vécu dans une année un peu d'ambiguïté, ce qui est très bien. Le plus au monde dans une organisation, le plus il faut apprendre à vivre avec un environnement incertain et un peu ambigu. Mais je m'y attendais un petit peu, mais je suis ravi d'être passé par là. Absolument ravi, et je pense, Pierre, que c'était le fait d'avoir mon poste supprimé après avoir moi-même tellement licencié, était une des expériences les plus structurantes de ma carrière.
En quoi déjà, enfin, je comprends pour le coup.
En plein de choses. Déjà, j'ai pris énormément de recul par rapport à la façon dont j'avais moi-même géré les PSE.
Ouais.
Et encore aujourd'hui d'ailleurs, ça résonne parce que avec mon entreprise, avec ma start-up actuelle, on prend justement des mesures maintenant que je comprends un petit peu comment fonctionne le marché du travail. Mais quand j'ai mené les PSE, je l'ai fait avec ma casquette de DG, donc avec un bon niveau d'écoute, mais en même temps avec clairement le souhait de négocier les conditions de départ des collaborateurs. Donc ouais. Je vais pas dire que j'étais redoutable, mais j'étais un partenaire de discussion pas forcément simple, hein, même pour la CGT avec qui j'étais en discussion frontale. J'étais un partenaire de jeu pour ces plans-là qui était assez redoutable et pas forcément celui qui était le plus généreux et le plus social. Donc j'avais un mandat qui était clair, c'était d'assainir les finances et c'est ce que j'ai fait. Et le jour où on m'annonce à moi que mon poste allait être supprimé, C'est beaucoup plus simple quand on est à la tête d'une filiale de commencer à négocier. Alors moi, j'aurais dit, écoutez, c'est pas le moment, ça m'arrange pas sur un plan, sur le plan personnel. donc je suis resté 7 mois de plus dans les dans les effectifs d'une part. Ensuite, moi qui étais redoutable en négociation sur les conditions de départ des collaborateurs, non seulement j'étais à la tête de l'entreprise, donc avec les bénéfices qui vont avec, mais forcément on est le premier à négocier pour soi. On sait comment faire, on sait comment s'entourer. Ouais. Et puis on part dans des conditions qui sont optimisées. Et quand on se retourne, je me suis souvent posé la question en me disant est-ce que tu as fait le nécessaire pour toi aussi toutes les personnes que tu as fait partir dans le cadre de tes plans sociaux. Et je me suis rendu compte, alors j'enfonce une porte ouverte, d'une vraie injustice. Alors c'est pour moi, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui sont à la tête des entreprises. On est redoutable au quotidien sur le plan économique et financier quand il s'agit de prendre des décisions difficiles, mais quand on nous annonce à nous-mêmes des décisions qui sont difficiles à gérer, on se dit bah attends, t'es assez différent. Et si c'était à refaire, donc un des enseignements clés, Pierre, c'était si un jour j'ai des PSE à mener à nouveau, je le ferai différemment parce que j'ai bien vu comment c'était une fois qu'on m'avait supprimé mon poste. Et une fois qu'on sort de l'entreprise, alors je pensais avoir un poste le jour où je suis sorti littéralement de mon poste, et ça s'est pas matérialisé. C'était la présidence d'une PME sympathique dans le même domaine que moi. Mais j'ai aussi appris ensuite quand on se retrouve chez soi et qu'on est ancien DG, j'ai énormément appris sur moi. Sur comment s'effacer ou comment on a peut-être tendance à s'effacer un petit peu derrière son statut et sa carte de visite. Donc on est DG au quotidien, on est un petit peu DG aussi quand on sort de l'entreprise, et quand on se retrouve chez soi et qu'on achète son propre ordinateur, son propre téléphone, sa propre voiture, qu'on n'a pas pris un billet de train soi-même depuis plus de 10 ans et qu'on gérait plus ses notes de frais depuis longtemps, il y a un vrai reboot de qui on est, avec la prise de conscience que on n'est pas ce qu'on fait. Et je pense que quand on a un parcours qui est un peu vertical où tout fonctionne bien pendant 20 ans, au bout d'un moment, on s'assimile un peu à ce qu'on fait et on n'est pas du tout ce qu'on fait. Et le vrai risque quand on s'assimile à ce qu'on fait, c'est que le jour où on fait plus rien, ce qui était mon cas pendant quelques longs mois, ça voudrait dire que je serais plus rien, ce qui n'était pas le cas. Donc c'était un vrai reboot sur les choses essentielles de la vie, où j'ai aussi rencontré ensuite des personnes qui étaient à la recherche d'emploi comme moi, l'importance de networker, et encore c'était simple, quand vous êtes un DG qui sort de son entreprise, vous avez le réseau, vous avez le savoir-faire.
Ouais, mais le réseau il tient pas 12 ans, hein. il faut l'entretenir tu sens bien qu'au bout de 6 mois, ton réseau, éventuellement, si tu l'as pas entretenu, il va perdre en puissance.
Ouais, mais il se construit. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la complexité du marché du travail, parce que même si j'avais le savoir-faire, le réseau et les moyens pour tenir très longtemps, ça a quand même été difficile. Et j'ai vraiment compris que pour les personnes qui avaient pas forcément le réseau, le savoir-faire et les moyens, c'était une galère qui était absolument incroyable et que ça peut être super difficile de remonter à cheval. Donc ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses.
Ok, alors il y a un passage chez Aigle.
Oui, tout à fait, oui. Donc ensuite, après quelques longs mois de recherche, et grâce au réseau, j'ai trouvé un poste de VP Wholesale et Retail pour l'Europe chez Aigle. Donc c'était une expérience qui était enrichissante aussi, beaucoup plus courte. J'avais déjà en tête ce doux rêve de lancer mon entreprise. Donc
en tout
Aigle, j'y suis resté pendant 18 mois et j'ai lancé mon entreprise puisque j'allais atteindre la cinquantaine et le moment était venu pour plonger dans le grand bain des entrepreneurs.
Alors là, on arrive à un moment hyper intéressant. C'est-à-dire que, donc, si on remonte un petit peu, tu as 48, 49 ans, tu es tu as des vraies réflexions sur toi, sur ton parcours, etc. Et là, il y a, un déclic qui se fait en se disant je vais y aller, je vais entreprendre.
Déclic, c'est vraiment le bon mot. C'est une période turbulente, ça, Pierre. Hein. Je me souviens encore très, très bien ces 2-3 semaines où l'arbitrage s'est fait. Tourner le dos au salariat, c'est une énorme marche à franchir et un début de résilience par rapport aux contingences matérielles qu'on a tous et financières. Et en fin de compte, l'arbitrage s'est fait sur est-ce que je reste salarié dans des grosses boîtes avec le confort que ça peut emmener et je continue à assurer les 15 ans de remboursement des crédits que j'ai, ou est-ce que j'assouvis quelque chose que j'ai certainement au fond de moi depuis de longues années et je prends un risque et je prends un vrai risque. Et alors j'ai énormément consulté hein, pendant quelques semaines des personnes qui ont pris cette décision, la famille, des coachs, etc. Et en fin de compte, ce qui était un peu un juge de paix, Pierre, c'est que je me suis projeté. Alors en l'occurrence, j'avais vraiment 50 ans, hein, j'étais même plus en fin de quarantaine. Je me suis projeté 10 ans plus tard et je me suis dit, quand j'aurai 60 ans et que je me retournerai sur cette décennie ou sur le début de la décennie de ma cinquantaine, est-ce que je serai plus satisfait d'avoir continué dans des entreprises avec tous les bénéfices qui vont avec, ou est-ce que je serai satisfait d'avoir donné libre cours à cette chose qui m'animait depuis un moment? Et donc j'ai finalement pris la décision d'accepter le risque et d'arrêter toute recherche et toute velléité de retourner en entreprise.
Alors, mais comment ça se passe dans ta tête? C'est-à-dire que tu as un projet déjà et tu hésites à y aller ou pas, ou c'est différent et tu te dis en fait c'est un choix de positionnement pour mon chemin professionnel, qui est de dire plutôt que d'être salarié, je veux monter quelque chose, et à partir de là, tu vas essayer de trouver une idée ou tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que la réflexion, elle part d'une idée de projet ou de l'envie d'entreprendre?
D'une idée de projet, clairement. J'étais pas forcément entrepreneur dans l'âme. J'étais heureux dans les belles structures. Mais
on fait pas ce chemin si on n'est pas heureux dans ces structures-là.
Hein. Ouais, c'est clair. On commence aussi Pierre sur la deuxième moitié de la quarantaine à se poser des questions un peu différemment. C'est intéressant parce que quand moi j'avais 38-40 ans, je voyais les personnes qui avaient 10 ans de plus, qu'on doublait un peu dans son parcours comme des TGV, et on se disait, ah ben dis donc, on les a rattrapés il y a quelques années en arrière, ils étaient un ou deux postes au-dessus de nous, et maintenant on leur fait passer des entretiens. Bah, c'est un peu ce que je vivais moi en fin de quarantaine, où j'avais le sentiment que derrière ça poussait fort, il y avait du talent, il y avait du savoir-faire, il y avait de l'envie, il y avait de l'énergie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à ressentir un peu la pression en me disant bah tiens,
le souffle chaud sur ta nuque
bah, un petit peu, et c'est la réalité. Alors je crois qu'on a tous du mal à, enfin c'est même pas je crois, c'est on a tous du mal à savoir quand on arrive sur ce fameux plateau, le syndrome de Peters, et peut-être que sans l'avoir consciemment détecté, à partir ma dernière grosse promotion, je devais avoir 44 ou 45 ans, et ensuite c'était relativement stable, et j'étais peut-être arrivé sur ce plateau de poste qui était intéressant, qui était stratégique, mais j'allais pas forcément aller beaucoup plus loin. Et quand on sent, Pierre, que ça commence à pousser derrière, il y a une question qui se pose, outre un projet, une vision pour un projet, c'est ok, j'ai bientôt 50 ans, où est-ce que je vais pouvoir être absolument incontestable pour la décennie qui suit, et en même temps m'épanouir? Et on revient et on scanne un petit peu sa carrière, où on a occupé, en tout cas dans mon cas, des postes de direction générale, de direction commerciale. Et moi, j'en suis arrivé à certainement le poste que j'occupais avec le plus d'intuition et le plus de force par rapport à tous ceux qui m'entouraient, c'était quand j'étais patron des collections pour Reebok pour l'Europe, où okay, très intuitivement, j'arrivais avec mes équipes à construire des produits qui faisaient la différence sur le marché. Et c'était intuitif. Il y avait zéro effort, il y avait zéro acquis derrière. C'était juste comme ça. Et j'avais.
Et dans le plaisir.
C'était du plaisir, mais c'était une vraie force, comme on en a tous, hein, dans certains domaines, certaines personnes, ça va être le digital, d'autres, ça va être différents aspects du domaine professionnel. Moi, c'était les fringues, tout simplement, et c'était les vêtements de sport. J'ai une vision là-dessus, c'est comme ça. Donc, on va en magasin de sport, on sort en pierre, et je te dis exactement ce qui s'y passe. J'avais cette vision d'une entreprise et en même temps, j'avais ce savoir-faire qui était certainement assez incontestable. Et donc, quand on met les deux ensemble, on bascule dans l'entrepreneuriat.
Donc, tu as un projet, t'as des coachs aussi qui t'accompagnent, sauf que tu vas pas partir tout seul.
Non, et encore aujourd'hui, je suis ravi de pas être tout seul, hein, parce que
je te confirme, la vie d'entrepreneur, quand t'es tout seul, c'est une horreur.
La vie d'entrepreneur seul, déjà à deux, c'est pas simple. Mais j'ai retrouvé Fabrice, mon associé, avec qui je travaillais chez Reebok il y a plus de 20 ans, qui était patron des opérations Reebok, et ensuite qui a fait un beau parcours chez Amazon en France. On s'est revu il y a un petit peu plus, enfin un an avant de s'y mettre à plein temps pour échanger de façon très libre sur ce projet de marque de sport. Et Fabrice à l'époque était déjà sorti d'Amazon, ne cherchait pas à retourner en entreprise, consacrait pas mal de son temps à des passions, l'écriture, la peinture, le dessin, le théâtre, etc. Et il s'est dit pourquoi pas. Donc, on s'y est mis ensemble, tous les deux, et on a créé une SAS qui s'appelle Aristote Sport, et on a créé la marque qui s'appelle Aert. Donc, on est littéralement 50-50 aujourd'hui dans le projet.
Alors, il y a plein de conseils qui vont dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, ou sur la répartition du capital justement entre associés, on dit toujours il y en a un qui doit avoir au moins 51% et l'autre 49%, enfin pour pas bloquer un certain nombre de décisions. Vous avez pris le choix de vous mettre à 50-50.
Ouais, littéralement, ouais. Ça équilibre beaucoup les choses. Ça veut pas dire qu'on a exactement le même rôle dans l'entreprise au quotidien. Chacun a son périmètre et puis sur certains périmètres on y est à deux, mais je connais bien ce principe de précaution qui est l'un doit avoir plus de parts que d'autres, etc. Dans notre cas, on se connaissait déjà et si c'était à refaire, je referais, Fabrice aussi, exactement pareil. Ce 50-50 est un facteur équilibrant qu'on recherche tous les deux au quotidien dans le pilotage de l'activité.
Donc, vous êtes tous les deux, vous êtes en accord sur le fait de créer une marque de sportswear. Ok ? Vous avez l'un et l'autre, ils doivent à peu près le même âge que toi.
Oui, il a 4-5 ans de plus, oui.
Ah, en plus, il est plus vieux. Donc, vous avez vraiment des heures de vol derrière vous. Vous avez un truc qui est un avantage, mais en même temps un désavantage, à mon sens, qui est que vous avez été biberonné par des méga organisations. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ben, faut vider les poubelles, faut nettoyer les chiottes, pour être vulgaire, et tu fais tout du sol au plafond. Raconte-moi un peu ces premières semaines, à partir du moment où vous décidez d'y aller, comment vous le vivez, comment vous dessinez en fait ce que va devenir Aert.
On a échangé très tôt avec Fabrice sur la culture qu'on souhaitait mettre en place. Et c'est un élément qui est essentiel. On a plus d'un siècle à nous deux. On a fait des grosses entreprises. Lui, certainement la deuxième au monde, des premières en capitalisation avec Amazon. Et très tôt, on s'est mis d'accord sur plusieurs choses. La première, c'était de refuser d'emmener avec nous un certain bagage corporate qui nous avait imprégné depuis deux décennies, qui se traduit par exemple par on refuse de faire des PowerPoint.
D'accord.
On a été tellement biberonné à ça
qu'on a bouffé du PowerPoint.
On voulait vraiment prendre le contre-pied. Une autre décision qu'on a prise, bon là on est en train maintenant qu'on se lance et qu'on s'entoure de personnes. Une autre décision qu'on a prise, c'est on n'a pas de réunion à heure fixe. On a vécu toute notre vie de ça. Donc, on a dès le départ institué autant de flexibilité et d'agilité que possible dans l'organisation, avec des échanges qui peuvent être à 7h le matin ou à minuit, du lundi au dimanche, mais sans aucune obligation de part et d'autre. Donc, on voulait avoir un maximum de flexibilité et un modus operandi qui est exactement l'inverse de ce qu'on a connu en entreprise, où évidemment tout est incroyablement normé. Il n'empêche que quand on est tellement imprégné de culture corporate, on amène avec soi certaines choses dont il faut quand même se débarrasser, et des vrais points de vigilance. On se rend compte, et on en parle avec Fabrice, que on perd un petit peu l'écoute de son intuition, et on a tellement de couches de vernis, de planification, de business plan avec nous, etc., que parfois on en vient à oublier l'essentiel, qui est juste se faire connaître et vendre le plus possible. Et donc c'est un effort, Pierre, quasi quotidien, de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce qui est fondamentalement le plus stratégique pour mon activité aujourd'hui? Et c'est clairement éloigné du quotidien des entreprises où on était, qui était organiser le temps des équipes, planifier son business 6 mois, 3 ans, parfois 10 ans à l'avance. Donc, il a fallu qu'on revienne à des choses qui étaient enfouies très profondément et qu'on avait certainement au démarrage de nos carrières, mais qui ont été un petit peu recouvertes avec des sédiments année après année. Donc, il y a un travail vraiment conscient de revenir aux fondamentaux. On a une start-up, on doit être agile. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Après, pour revenir à ton point, accepter de changer les cartouches soi-même, de faire les mesures des produits soi-même, d'à peu près tout faire soi-même, ça, on l'a fait assez rapidement. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Donc, on est très à l'aise sur ces tâches qui font partie de la vie de tout start-upper. On en parle de temps en temps en se disant, bah, vivement que ce soit gros, et on se retournera avec le sourire sur ces choses-là. Mais oui, des anecdotes de petites choses qu'on doit faire au quotidien, c'est savoureux au contraire.
Alors, comment vous faites pour passer de deux gars qui ont une idée à cette start-up fait partie de la sélection des 100 start-up où investir en 2021 selon Challenge? Et ça, en pleine pandémie mondiale.
Ouais, c'est assez miraculeux, juste quelques mois dans l'activité, d'être sélectionné par Challenge dans les 100 startups où investir. On n'y croyait pas nous-mêmes. Et j'ai posé la question aux journalistes de Challenge. Forcément, bon, il y a 700 000 entreprises qui se créent chaque année en France. Il y en a plus de 700 qui ont postulé. Il y en a une centaine qui ont été prises. Et j'ai interrogé le journaliste. Quand il m'a appelé pour me dire, bah, écoutez, on va pousser un petit peu le dossier que vous avez rempli avec des questions. Et je lui ai demandé à la fin, mais pourquoi nous? Et il a répondu deux choses. Il a dit, un, pour la vision. On pense que la façon dont vous percevez le marché est radicalement différente de tout ce qui se fait aujourd'hui. Et deux, on croit dans l'équipe. Vous avez peut-être plus d'un siècle à vous deux, mais on a regardé vos parcours. Et on pense que vous saurez le faire. Donc oui, ça paraît assez miraculeux. Et pour répondre à la question, on fait les choses étape après étape. On est très séquentiel dans la façon dont on approche nos différentes missions. Donc la première chose, Pierre, c'est d'avoir une vision qui est claire. Donc nous, notre vision, c'est d'infuser un esprit tailleur dans les vêtements de sport au quotidien. C'est incroyable comme à la ville. Il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont très soucieux de leur vestiaire, qui vont avoir une vraie exigence sur les matières qu'ils portent, sur la construction des produits, sur les coupes des produits, sur les nuances coloristiques de ce qu'ils vont porter pour pouvoir être bien dans leur basket, dans leur tenue au quotidien. Et quand ils se tournent vers le marché du sport, ben ils laissent en quelque sorte leur élégance au vestiaire. Et le travail qui a été fait historiquement par les marques de sport, c'est d'aller vers toujours plus de technicité et de performance, mais pas vers plus de raffinement dans les looks. Donc, infuser un esprit tailleur, c'est redéfinir la silhouette la plus raffinée au travers de coupes, de couleurs, de constructions et de matières les plus nobles et les plus élégantes possibles, pour que le sportif, lors de sa pratique préférée, soit aussi élégant qu'à la ville. Donc, la vision, c'est ça. Et elle se matérialise de façon très concrète par des produits. Donc, on a commencé à travailler il y a déjà un an et demi, avant même que je sorte mon entreprise précédente, sur les premières collections qui répondent à cette vision d'un esprit tailleur dans le sport. Ça se matérialise aussi par une imagerie. Quand vous parlez d'esprit tailleur, ça doit se traduire par une imagerie qui est aspirationnelle, qui est très orientée studio, que les sportifs et les sportives se disent « Waouh, on n'a jamais vu ça dans le sport ». On a plutôt l'habitude de voir des personnes dans une pratique ultra intensive, en train de faire du trail ou en montagne, ou en train de faire de la musculation dans une salle de gym. Donc, ça se traduit par des produits, ça se traduit par des visuels, ça se traduit par une stratégie de distribution. On est une DNVB, ouais. Donc on est né, nous, sur Internet.
DNVB pour Digital Native Vertical Brand.
Oui, exactement.
Donc,
oui.
Ça veut dire full web.
Ça veut dire né sur le web. Sachant que vivre sur le web aujourd'hui, avec notre positionnement très tailleur, c'est impossible. On parle de beauté des matières, de beauté des coupes, etc. L'expérience doit se vivre. Donc, on a un relais en magasin physique éphémère qu'on appelle des pop-up. Donc, on a fait un pop-up dans Paris pendant un mois, de mi-janvier à mi-février. Et dès qu'on est déconfiné, on va renouer avec un pop-up dans le cœur de Paris pendant deux mois, et on espère en faire en province un de ces jours. Mais on a besoin de faire vivre l'expérience des produits et de la marque, et aussi de dialoguer avec les fondateurs en magasin physique. Et ça, Internet le permet moins. Donc, on aura une...
Puis ça te permet, toi, de te confronter à tes clients aussi, c'est-à-dire que tu es au contact client dans les pop-up stores.
Ah, c'est indispensable. Moi, j'ai été pendant 30 jours d'affilée, du matin au soir, à habiller des personnes qui venaient, des personnes du réseau, des personnes qu'on connaissait pas. Donc, c'était...
C'était qui, c'était tes premiers clients?
Ah, les tout premiers clients. J'ai imprimé la première commande, hein. Donc la première commande, c'était mon frère. Mais on travaille, vous savez, on travaille en cercle concentrique, hein. Donc les premiers, c'est la famille.
Friends and family.
Ensuite,
ouais.
C'est friends and family. Ensuite, il y a un ou deux consommateurs un peu plus aventureux. La première fois qu'on a eu un inconnu qui a passé sur commande sur le site, je l'ai appelé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, j'essaie d'appeler toutes les personnes qu'on connaît pas, hein, pour avoir un échange personnalisé. Donc, on travaille progressivement à grandir le cercle, à développer la confiance avec les personnes qu'on ne connaît pas aussi.
Et c'est quoi, justement, alors c'est quoi leur déclencheur? Le premier là que tu connaissais pas, qui a acheté quelque chose, ça a été quoi son déclencheur?
C'est une équation. En général, c'est des personnes qui sont déjà ouvertes aux nouvelles marques, hein. Donc, il y a des personnes qui le sont plus que d'autres. Ensuite, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans le positionnement de la marque. Donc, c'est une nouvelle marque, certes, mais derrière, il y a ce positionnement très, très tailleur. Et c'était un consommateur, je me souviens encore bien, qui recherchait justement un look un petit peu plus raffiné pour sa pratique de la course à pied. Et après, c'est des personnes qui se reconnaissent dans nos valeurs. Donc, on est des gens, on se présente sur le site avec Fabrice. On est des personnes qui sont assez simples, avec des valeurs qui sont assez saines, hyper accessibles au quotidien. Donc, c'est des personnes qui ont lu un petit peu. Je me souviens la première personne qui a commandé, quand je dis au téléphone, il m'a dit qu'il avait même été voir mon profil sur LinkedIn. Ouais, c'est amusant. Donc voilà, et puis après ça se construit peu à peu.
Et donc je rembobine juste un petit peu, parce que tout ça se finance. Alors comment vous faites? Vous faites sur fonds propres aujourd'hui? Vous avez levé des fonds? Vous allez en lever? C'est quoi la situation de ce côté-là?
On est...
Parce que alors pour le coup je connais pas du tout cette industrie, mais faire une première collection, etc. Déjà, faut la penser, faut la designer, faut la produire. Après, ok, la vendre, c'est une chose, mais avant même d'être en capacité de vendre, tu dois mettre un peu d'argent sur la table.
Oui, clairement, même beaucoup d'argent sur la table. Il y a les produits, il y a le site, il y a les personnes qui nous entourent. Donc, on a un vrai récurrent chaque mois. On est aujourd'hui 80% en fonds propres. Les 20% restants, c'est une banque partenaire. Et tu as raison, quand on est en B2C, il faut de l'argent. Quand Nestlé, Coca ou Danone lance un produit, c'est à coup de millions qu'ils le lancent. Quand on est en B2C, qu'on doit toucher un consommateur qui est sollicité en permanence par d'autres marques. Il faut non seulement toucher très large, mais le toucher très souvent, donc pour gagner en notoriété et en désirabilité et être considéré comme une marque potentielle pour le prochain achat, c'est de l'investissement. Donc, on a besoin de fonds. Donc, avec nos fonds propres, on peut continuer. On commence tout juste à étudier l'opportunité de faire rentrer des business angels. Des fonds aujourd'hui, c'est pas réaliste, hein, parce qu'on recherche pas tant que ça, et le ROI pour un fonds, il est pas encore intéressant, mais on commence à réfléchir à faire entrer des personnes qui ont été elles-mêmes entrepreneurs, idéalement dans un secteur connexe, voire exactement le même, et qui pourraient se passionner pour un projet comme le nôtre. Donc, c'est fonds propres, endettement et certainement business angel.
Alors, j'ai bien compris la vision. Effectivement, je pense que aussi, c'est votre très bonne connaissance du marché qui fait qu'en tout cas, de ce que j'en pressens, vous êtes sur une niche, et ce n'est pas péjoratif hein, dans mon esprit, au contraire, parce que je pense que c'est une niche précieuse, une niche du marché où les gros acteurs ne vont pas, ou en tout cas, ils ne le traitent pas. Et ce n'est pas là qu'ils vont mettre leurs millions de dollars, justement. C'est-à-dire que vous avez créé un mix produit, on va dire, performance, esthétique, et y a une partie dont tu n'as pas parlé, qui est éco-responsable, responsabilité sociétale des entreprises, etc. Parce que vous essayez de produire vertueux, on va dire.
Oui, alors plusieurs questions. Oui, elles peuvent, les plus grosses organisations peuvent pas y aller. On passe entre 3 et 5 fois plus de temps par produit que ce que je faisais quand c'était mon métier à plein temps pour une marque de sport. Donc, les grandes marques qui produisent une offre qui est super, hein, ils travaillent remarquablement bien, Nike, Adidas, ils ont simplement pas le temps de développer cette niche avec cet esprit tailleur, avec une sélection matière très fine, avec des montages beaucoup plus compliqués. Le temps de mise au point de nos produits, il est long, donc elles ont pas le temps. Donc c'est effectivement une niche entre notre savoir-faire et nos envies, nous on prend le temps puisque c'est le fondement même de notre entreprise. Donc c'est pas simple. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de créer une marque qui est juste purement éco-responsable que de créer une marque avec un esprit tailleur, parce que cet esprit tailleur, il faut savoir comment le matérialiser au quotidien. Pour revenir à ton point sur la responsabilité sociale et environnementale de AERT, c'est un socle qui est incontournable pour nous. Et contrairement à d'autres entreprises, nous on
entend ton chien dans le fond, mais c'est pas grave.
Ouais. On a commencé nous, Pierre, par le S de RSE. Aujourd'hui, il y a une mode énorme qui est de parler de la responsabilité environnementale et on s'en préoccupe clairement. Mais de notre point de vue, on ne parle pas assez de la responsabilité sociale. Et ça vient très certainement de qui on est. Donc, on a roulé notre boss, fait 20 ans qu'on travaille, on a connu des hauts et des bas dans la vie pro, dans la vie personnelle. Et la responsabilité sociale d'une entreprise, elle est absolument clé pour nous. Et avant même de lancer l'entreprise, on a décidé de souscrire des partenariats avec deux associations qui sont à nos yeux absolument incontournable. Alors la première, pour revenir à ma propre histoire, c'est Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Donc aujourd'hui, on supporte la première association qui aide les chercheurs d'emploi, et souvent les chercheurs d'emploi qui sont vraiment en demande d'aide parce qu'elles galèrent. Et on a aussi un soutien via du mécénat avec Emmaüs Solidarité, parce que dans un pays qui est riche comme la France, ça nous rend dingue de savoir qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, tout autant que ça nous rend dingue de savoir qu'il y a 4 millions de sans-emploi en France, qui en général se résument à des statistiques dans les journaux. Donc, de par qui on est, avec notre expérience, notre vécu, on veut intervenir le plus puissamment possible sur ces causes sociétales. Et c'est pour ça qu'on a décidé de reverser chaque année un pourcentage de notre chiffre d'affaires, pas de notre résultat, à des causes. Donc, on l'a affiché et on le dit, 3% du chiffre d'affaires chaque année de Aert sera reversé à des associations, ce qui est assez unique aujourd'hui.
On dit que pour valider un positionnement comme ça, il faut renoncer à quelque chose. Ben, en gros, tu renonces à une part de ton chiffre d'affaires.
Nous, on renonce à du chiffre d'affaires. Alors, pourquoi le chiffre d'affaires? Déjà, parce que les montants sont plus importants et que ça nous importe plus d'aider des causes qui nous tiennent à cœur que de nous enrichir. Et deux, quand c'est le chiffre d'affaires, les personnes qui nous achètent ont directement la main. Si c'est sur le résultat, ouais. Il suffit qu'on se distribue qu'on se paye, le résultat il sera zéro. Donc le chiffre d'affaires, au moins, c'est incontestable. En ce qui concerne les causes environnementales, elles sont tout aussi importantes, mais c'est bien d'avoir l'ordre du cortège qui est clair. Nous, on est déjà dans le ici et maintenant pour aider les hommes et les femmes, et on veut aussi ne pas nuire à l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a une position qui est assez ferme et définitive. Chaque année, depuis 2020, nous allons compenser intégralement notre empreinte carbone. Donc, c'est une décision qui est coûteuse, mais c'est une décision qui est évidemment dans l'intérêt de notre planète. Donc, dès 2021, on va financer notre empreinte carbone via un projet avec une association qui s'appelle Stock CO2, qui contribue à la reforestation de certaines zones privilégiées en France. Donc, le calcul de notre empreinte a déjà été fait avec des méthodes, avec les méthodes en place. Et même si on gagne pas encore d'argent, on va reverser une partie assez significative à cette association.
Puis c'est écrit dans votre nom. Donc, AERT, c'est l'anagramme de Earth.
AERT, c'est l'anagramme de Earth et de Heart. Donc, c'est une marque qui a du...
Ah oui, joli.
C'est une marque qui a du cœur et qui se soucie aussi de la planète.
Vous l'avez trouvé comment, ça?
AERT, c'était... Alors, AERT, en premier lieu, c'est l'association de l'AE, de la esthétique latin, esthétique en latin, et du TH, theta grec, qui fait référence au savoir et à la science. Donc, AERT, c'est l'association entre l'esthétique et la technique, la performance. Et il se trouve que c'est aussi l'anagramme de Earth et de Heart.
Ah ouais, quand même, il y a de la réflexion. On voit les professionnels de la profession, monsieur.
Ah, merci.
Alors, le marché, vous le maîtrisez pleinement, et pour le coup, moi pas du tout. Donc, est-ce que tout ça, le marché du sportswear aujourd'hui, c'est un marché qui est un marché sain, qui est en développement? On est d'accord, tous les Français se sont mis à courir le 17 mars 2020 parce que c'était la seule opportunité qu'ils avaient de prendre l'air, mais de manière générale comment tu vois, tu conçois ce marché là est-ce que, en gros, et je te la fais courte, est-ce que vous êtes sur un marché porteur ou sur un marché qui se casse la gueule?
Oui, les porteurs. Contrairement au prêt-à-porter qui s'écroule depuis 2008-2010, le marché des articles de sport, il est en croissance. Alors, c'est pas une croissance de folie, hein. C'est entre 3 et 5% depuis une décennie. Et les projections du marché...
Ouais, mais c'est des volumes... considérable.
C'est des volumes considérables. Le marché en France, il est entre 10 et 12 milliards. Bon, il a connu un trou d'air quand même en 2020 parce que les magasins étaient fermés et même si on avait le droit d'aller courir, on n'allait pas forcément renouveler sa tenue pour le faire. Mais c'est un marché qui est sain et qui va continuer à être sain pour des raisons démocratiques, pour des raisons de pratiques qui se féminisent, de seniors qui se mettent de plus en plus à faire du sport. Donc c'est un marché qui est sain, qui n'explose pas, mais qui est déjà en croissance chaque année et qui va le rester pendant un bon petit moment. Donc, c'est un marché qui est assez porteur.
Alors, tu l'as dit, il y a les pop stores, mais vous êtes des digital natives. Quand même, tu as 50 berges, tu es un digital natif, ce qui est, c'est un vrai exploit. Hein. comment vous êtes allé chercher cette maîtrise du digital, justement?
Bon, c'est un des points communs, Pierre, entre une start-up et une entreprise classique, c'est qu'il faut s'entourer de talents et avoir l'équipe la plus performante possible. Donc, ce qu'on sait pas faire, on va chercher le talent à l'extérieur. Donc, bon, déjà, mon associé a quand même passé 7 longues années chez Amazon, donc il débarquait pas dans l'univers digital. Mais on a travaillé avec, on a une responsable marketing déjà qui nous supporte sur la partie e-commerce, qui a littéralement la moitié de notre âge. Donc, elle pour le coup, elle est ultra digital native. Et derrière, on peut trouver des ressources et des compétences à peu près partout que ce soit en région parisienne ou en province. Donc, on a un webmaster, on a des stagiaires qui nous aident sur la partie gestion de la communauté, etc., etc. Donc, ce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes ou ce qu'on ne sait pas très bien faire, on le délègue.
Tu l'as dit, puis je l'ai entendu dans une autre interview que tu donnais, que alors, je ne sais pas si c'est tu ou vous, vous faites coacher, vous faites accompagner. Tu peux nous en parler un peu plus et de l'intérêt que tu y vois?
Il y a deux types d'accompagnement. Un, déjà, je me suis moi fait accompagner sur un plan perso, hein, quand je me suis jeté à plein temps dans l'aventure. J'ai eu un coaching pendant au moins 8 mois sur l'organisation de ma nouvelle vie, parce que encore une fois,
il faut la réinventer.
Il faut la réinventer. Là, on travaille. Là, par exemple, je travaille de la maison. Mes enfants, ils ont 10 et 12 ans. T'as entendu mon chien aboyer tout à l'heure. Enfin, il y a tout à faire. Donc, quand on est en entreprise, on est dans un train qui avance. Et il suffit de monter dans le train, puis on avance avec. Et quand on se retrouve à lancer soi-même, il faut réorganiser ses priorités, son organisation. Donc, je me suis fait accompagner, moi, sur le plan perso dans ma propre organisation. Et ensuite, on se fait accompagner par des experts du marché. Il y a beaucoup de domaines qu'on a managé, mais pour lequel on n'est pas nous-mêmes des experts. Donc, on est très entouré, notamment sur la stratégie marketing, par un écosystème de personnes de notre réseau qui nous aident avec plaisir. Donc, dedans, il y a la directrice d'une agence de communication avec qui on passe régulièrement du temps pour faire un point. Il y a des directions marketing, il y a des directeurs marketing qui ont été soit en FMCG, soit dans le sport. Il y a des personnes qui ont travaillé dans le luxe, puisque Hyatt c'est une marque qui est très premium et il faut s'assurer de bien maîtriser tous les codes. Donc on est très entouré dans les domaines qui sont plutôt d'ordre marketing ou digitaux. Et pour ça, on s'appuie sur un réseau qui est toujours prêt à aider, au même titre que nous, on aide des personnes qui ont besoin de support parce qu'ils sont pas des experts.
Alors c'est quoi les prochaines grandes étapes pour AERT?
Ouais, continuer à enchanter les sportifs le plus possible, que les personnes qui achètent nos produits prennent un réel plaisir à les mettre au quotidien chaque fois qu'ils vont pratiquer. Ensuite, ça va être d'aller encore plus loin sur cet esprit tailleur que l'on cherche à infuser sur le marché du sport. Donc, nos prochains produits sont déjà en développement et on a des trucs qui sont super sympas qui vont arriver en juin, septembre, octobre et novembre. Donc, c'est continuer ce travail de développement produit. Et en termes de marque même, c'est très simple, hein, c'est la notoriété qui se fait via les RP, via la communication digitale, la croissance organique, du payé, du sponsorisé, que ce soit sur Instagram ou sur Google, et ensuite mettre en place un programme ambassadeur pour commencer à rayonner avec des leaders d'opinion locaux un petit peu partout en France. Donc, c'est désirabilité et notoriété en priorité.
Ok. Oui, c'était un vieux reportage que j'avais vu au moment de la création de Hermès, où on voyait le fondateur d'Hermès qui allait, alors ça devait être à Marseille à l'époque, avec son sac de sport, et il allait distribuer ça aux joueurs de l'OM, en se disant que peut-être un jour ce serait vu et voilà. Cette logique d'influenceur, elle est importante sur ce marché-là.
Ah, c'est marrant que tu sois ton anecdote là, parce que il y a une semaine, j'ai pris mon petit sac et j'étais dans les bureaux de TF1 prendre un café avec une proche qui était avec moi en prépa et qui déjeunait le midi même avec le présentateur vedette de la plus grande chaîne française le soir même, et donc elle lui a remis nos produits et l'après-midi même je recevais un SMS de sa part où il se prenait en photo. Donc on essaie d'avoir du placement qu'on fait nous-mêmes, on se déplace, il y a aussi quelques animateurs, mais se faire connaître passe aujourd'hui par on en parlait tout à l'heure les RP, ça passe beaucoup par les e-influenceurs, donc les personnes qui sont très influentes sur Instagram. Nous, on n'a pas pour politique de les payer, mais on est ravis de faire des dotations près de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui représentent bien la marque. Et aussi, on a besoin d'avoir un programme ambassadeur qui va au-delà des e-influenceurs qui sont peut-être plus dans dans l'instantané. On est sur une story, puis le lendemain, on disparaît. C'est bien pour recruter des abonnés qui nous pour avoir plus de followers. Mais on travaille aussi à avoir une empreinte peut-être un peu plus pérenne, notamment en région, avec des leaders d'opinion régionaux qui organisent des courses ou qui sont passionnés de sport, qui ont un gros réseau. Donc, on travaille sur plusieurs strates différentes d'influence.
Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui, moi, me plaît dans vos produits, c'est qu'on évite le... Alors, tu dis esprit tailleur, etc. Et oui, on parlait de sobriété. C'est-à-dire que chez vous, il n'y a pas de fluo, quoi. Et moi, ça me va très bien, au contraire. C'est du blanc, il y a du blanc, du noir, des trucs très... Enfin, on voit que vous avez aussi... vous cherchez aussi les codes du premium,
ouais,
voire du luxe.
Et les teintes coloristiques, elles sont indissociables. Hein. On s'inspire de ce qui se passe sur les podiums. Là, en travaillant les produits qui vont arriver cet automne, on regardait ce qui se passe sur les podiums. Donc, on regardait Zegna, Le Maire, Prada, pour voir un petit peu quelles sont les influences en termes de couleurs. Mais on évite toujours de tomber dans la facilité. Donc, notre marine n'est pas un vrai marine. C'est un midnight sky avec des nuances assez subtiles par rapport aux coloris marines qu'on trouve habituellement. Notre blanc n'est pas un blanc, c'est un lunar white, donc un blanc légèrement décalé. Notre rouge, on n'en aura pas beaucoup en collection, mais on a une pièce qui est colorée rouge. On va pas avoir le rouge pétant ou on n'aura pas de jaune fluo ou de vert fluo. Donc, c'est clairement pas dans notre ADN. Et les codes du premiumness se retrouvent dans des nuances qui sont peut-être un peu plus raffinées que ça, oui.
Aujourd'hui, Patrick, est-ce que tu es heureux?
Oui. C'est j'ai une chance énorme de faire un métier que moi je considère est le plus beau métier du monde. Être à la tête d'une marque de sport, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Donc j'ai de la chance d'être là où je suis aujourd'hui.
Ouais. Je trouve l'aventure belle. Au-delà des produits qui sont beaux, du positionnement que je trouve smart. Effectivement, je pense que cette aventure entrepreneuriale est intéressante. Et justement, si dans les millions d'auditeurs de la colle, il y en a qui sont comme moi, qui se disent waouh. Finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider, pour vous accompagner?
Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire pour toi?
Très, très prosaïquement, aller sur aert.eu et découvrir nos produits. Et si ce que vous voyez plaît, pourquoi pas les tester?
Ben voilà, ok. Le message est passé. Aert, alors, aert.eu. Si vous voulez tomber direct en FR, vous faites /FR et vous tombez dessus. Et vous allez voir, il y a une vraie esthétique aussi autour de ça. Donc, c'est enfin voilà, une belle aventure, bien réfléchie, bien menée. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des trucs pour les... Quand tu es dans ta cinquantaine, tu vas vers les trucs qui te font plaisir, qui font du sens aussi pour toi. Enfin voilà, tout ça c'est hyper smart. Patrick, je vais pas t'embêter plus longtemps que ça avec mes questions. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais dû te demander et je suis passé à côté?
On a couvert pas mal de champs en l'espace d'une heure, donc rien ne me vient à l'esprit.
Donc, on va enchaîner avec les 7 dernières questions. Alors, Patrick, dis-nous. Quel est ton mot préféré?
Intégrité.
D'accord. Tu veux développer ou il y a un truc derrière intégrité?
Non, je pense qu'on est plus heureux dans la vie et on rend aussi son entourage plus heureux quand on est intègre.
Le mot que tu détestes?
Perdre.
Ah, ça c'est intéressant. Pourtant, La vie d'entrepreneur est faite d'échecs.
Oui, mais il faut quand même être ultra compétitif moi j'ai été ultra compétitif quand même dans ma carrière et je le reste aujourd'hui dans mon projet entrepreneurial. Donc le projet il est fabuleux, mais derrière il y a des vraies ambitions et j'aime bien gagner, y compris contre mon fils au ping-pong.
Le son ou le bruit que tu aimes?
Alors, la voix de mes enfants quand ils appellent papa.
Oh, c'est choupi ça. Ouais, mais je comprends que ça fasse quelque chose. Le son ou le bruit que tu détestes?
Ah, je me suis posé la question. C'est le bruit de la porte qui claque quand mes enfants partent en vacances pendant 2 semaines sur moi.
Ah, très attaché aux enfants alors.
Ouais, très famille.
Ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Il est bien trop gros pour être pour être partagé. Je me suis posé la question et j'en ai.
Compris en anglais ou pas?
On en parlera. Non, c'est vraiment français. Hein. Je suis très français pour ça, donc difficile à exprimer là.
Ok, on passe. La citation que tu aurais aimé prononcer?
Alors, il y en a une qui est revenue régulièrement tout au long de mon parcours. C'est une citation d'une écrivain poète américaine qui s'appelle Maya Angelou. Mm-hmm. Alors la citation, elle est en anglais. Hein. Je vais essayer de la traduire.
Non, fais-nous là en anglais déjà, comme ça on voit l'accent et tout.
People forget what you said, people forget what you did, but people never forget how you made them feel. Mm-hmm. Donc les personnes oublient ce que vous avez dit, les personnes oublient ce que vous avez fait, mais des personnes n'oublient jamais la façon donc vous les avez fait se sentir. Et c'est quelque chose que j'ai pratiqué régulièrement durant ma carrière.
Ouais, c'est profond, pour le coup. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
C'était pas mal.
Pour un compétiteur comme toi, juste, c'est pas mal. Bah, tu me diras, si c'est Dieu qui te dit ça, c'est déjà... Bon, c'est un peu la classe, quand même.
Ce serait déjà pas mal.
Ouais. Ok. Patrick, un grand merci pour ce temps. On souhaite, en tout cas moi je souhaite plein de réussite, plein de bonheur à Aert et à toutes ces équipes. Je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Chers auditeurs, suivez ça de près. Je le redonne parce que et je suis pas payé pour, mais allez sur aert.eu, aert.eu, allez voir, ça vaut vraiment le coup. Je mettrai le lien de toute façon dans la description de l'épisode.
Merci.
Et écoute, Patrick, on se donne rendez-vous d'ici un an, 2 ans. Voilà, on regardera quand tu auras envahi le marché. Ok.
Mais écoute, merci pour ce moment avec toi, Pierre. C'était un vrai plaisir.
Plaisir partagé. Bye bye, Patrick.
Au revoir.
Bravo, vous avez tenu jusque là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.